Bonjour mes frères et mes sœurs. Peut-on compter sur vous, sur vos paroles, sur les engagements que vous prenez? Peut-on savoir si ce que vous dites est vraiment ce que vous pensez? Il y a des gens qui disent une chose et qui font quelque chose d'autre. Il y a des gens qui interdisent aux autres quelque chose qu'eux-mêmes font. Par exemple, les parents souvent disent à leurs enfants, il ne faut pas mentir, et pourtant, eux-mêmes mentent. Ou alors, ils diront à leurs enfants, écoute, fume pas, et alors eux-mêmes abusent du tabac. Je connais des gens, des parents, et j'en suis sûr que vous en connaissez aussi, qui s'enivrent. Et pourtant, ils disent à leurs enfants, écoute, il ne faut pas boire, pas trop, et ainsi de suite. Il y a encore des cas où, ça peut être vous, ça peut être moi, nous promettons, nous disons une chose, et ensuite nous faisons quelque chose tout à fait différent, tout à fait d'autre. Vous appelez ça quoi? Eh bien, en bon français, c'est de l'hypocrisie. On est hypocrite lorsqu'on dit une chose et lorsqu'on fait quelque chose d'autre. On est hypocrite lorsqu'on pense à quelque chose et on agit différemment. On est hypocrite lorsqu'on prétend croire quelque chose. Prétention. Prétendre quelque chose. Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est de l'hypocrisie. Vous direz, est-ce que la Bible en parle? Eh oui. La Bible a beaucoup à dire sur l'hypocrisie. Ce qui est intéressant, lorsque nous lisons la Bible, nous autres, nous pensons que le mot exact en français ou dans une autre langue doit être dans la Bible. Eh bien, parfois c'est le cas, parfois ce n'est pas le cas. L'hypocrisie en français se traduit différemment dans les langues écrites dont la Bible a été écrite. Vous trouverez par exemple dans l'Ancien Testament des mots qui ont été traduits différemment et je vais vous en montrer. Parfois c'est hypocrite. Parfois c'est impie et ainsi de suite. Dans le Nouveau Testament, de même. De temps en temps, vous trouverez le mot hypocrite. Eh oui, je dirais, eh oui. Vous en trouvez parce que le Christ parle très clairement et puis il dit, vous, hypocrite. Et parfois dans les Épîtres, vous voyez l'hypocrisie se manifester d'une façon tout à fait différente, mais quand même, c'est l'hypocrisie. Prenez par exemple Jude. La petite Épître de Jude. Dans le Nouveau Testament, le dernier chapitre avant l'Apocalypse, Jude décrit d'une façon claire les gens qui sont hypocrites, les gens qui sont mauvais. Il dit, ce sont des, verset 12, Jude, verset 12, ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment, dit-il, bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans pousser par les vents. Des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts. Regardez voir, c'est fort ces expressions. Mais autrement dit, Jude décrit ici en quelque sorte l'hypocrisie. Il appelle un peu plus loin, verset 13, il dit des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, et ainsi de suite. Voyez-vous, la Bible a beaucoup à dire sur l'hypocrisie. Ici, Jude décrit l'attitude des gens qui sont contre Dieu, contre la vérité, qui attaquent les apôtres du Christ, qui attaquent les disciples du Christ. Si vous cherchez dans un dictionnaire la définition du mot hypocrite, vous verrez par exemple que c'est marqué, c'est un défaut qui consiste à dissimuler votre volonté personnelle, votre volonté, votre véritable personnalité. Alors, posez-vous la question, est-ce que vous cherchez à dissimuler votre véritable personnalité? Est-ce que vous affectez des sentiments, des opinions, des vertus qui ne sont pas les vôtres? Pensez-y. Lorsque vous dites quelque chose, êtes-vous vraiment convaincu que ce que vous dites, c'est ce que vous sentez dans votre cœur? Est-ce que vous exprimez vos sentiments de façon à plaire à quelqu'un, alors que ce n'est pas le cas. C'est pour chercher un avantage. Ce sont des questions que je vous pose, voyez-vous, car c'est souvent, nous sommes souvent motivés par cela. Nous faisons des choses pour gagner quelque chose, par intérêt personnel. Nous disons à quelqu'un, oh, que vous êtes beau, mais alors qu'en réalité, on ne le croit pas. Ou bien on fait des compliments. Souvent, les compliments que vous faites sont vraiment de vrais compliments, ou bien ce sont seulement des paroles que vous prononcez parce que vous voulez plaire à quelqu'un. L'hypocrisie est une déception. Vous décevez quelqu'un par des sentiments que vous dissimulez. L'hypocrisie, c'est de porter de faux témoignages. Et ce faisant, voyez-vous, vous devenez doublement coupable. Je répète, dans la Bible, ce mot hypocrite parfois apparaît très clairement comme tel, et parfois sous d'autres mots qui ont été traduits de l'hébreu ou bien de grec. Eh bien, une chose est certaine. Les 10 commandements sont à observer. Lorsque nous transgressons les 10 commandements, ou bien l'un de ces 10 commandements, volontairement, délibérément, nous n'allons pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est clair. Vous ne pouvez pas transgresser les lois divines et espérer que vous entrerez dans le royaume de Dieu. Pourtant, c'est le but de la vie. Un jour ou l'autre, nous avons tous pour but de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Bon, il y a à côté des 10 commandements d'autres états, d'autres attitudes qui sont attachées aux 10 commandements, mais ne sont pas exactement « tu ne mentiras pas » ou bien « tu ne voleras pas ». Par exemple, l'hypocrisie. Eh bien, l'hypocrisie fait partie des 10 commandements. Si vous êtes hypocrite, et si vous restez hypocrite, si vous ne vous en repentez pas, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Eh oui! Tout comme les 10 commandements que vous transgressez volontairement, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. De même, si vous êtes hypocrite et si vous ne vous en repentez pas, c'est toujours le repentir. Si vous vous repentez, c'est autre chose, Dieu vous pardonne. Mais si vous êtes hypocrite et si vous continuez à l'être sans vous en repentir, alors je dirais, méfiez-vous, gardez-vous, car le Christ a dit qu'aucun hypocrite, je vais vous le montrer, n'entrera dans le royaume de Dieu. À l'époque du Christ, les pharisiens, connus pour leur sentimentalité en ce qui concerne leur religion, étaient des hypocrites. Les pharisiens connaissaient la loi. Les pharisiens pratiquaient la loi à leur façon, mais les pharisiens faisaient une chose et ils prêchaient quelque chose d'autre. Le Christ les appelle hypocrites. C'est vrai. Dans la Bible, il y a Matthieu 23 comme chapitre. Je vais vous en parler dans quelques instants. Mais laissez-moi au moins commencer Matthieu 23 pour vous montrer comment le Christ décrit l'hypocrisie de ces gens, des pharisiens. Car la plupart du temps, lorsque le Christ a été, je dirais, piégé ou bien attaqué, ou bien persécuté, c'était à cause de l'hypocrisie des pharisiens. Les pharisiens qui lui en voulaient parce que, d'abord, eux-mêmes n'étaient pas convertis, évidemment, mais parce qu'eux-mêmes étaient des hypocrites. Ils voulaient, eux, gagner quelque chose, ne voulaient pas que Christ leur montre qu'ils ont tort. Regardez comment le Christ commence Matthieu 23. Il dit, il parlait à la foule. Les scribes et les pharisiens étaient assis dans la chair. Il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Alors, c'est quoi la chair de Moïse? La chair de Moïse, c'est là où les commandements ont été donnés, les lois. Donc, ce sont des lois qui sont assis, ce sont des gens qui sont assis dans la chair de Moïse, autrement dit, en tant que juge, si vous voulez, dans un tribunal. Il dit, et pourtant, ils ne font pas ce qu'eux-mêmes disent. Il dit, faites donc, verset 3, observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. N'est-ce pas intéressant? Donc, les pharisiens connaissaient la loi. Ils savaient ce qu'ils devaient faire, ils vous disaient ce qu'il faut faire, mais eux-mêmes ne faisaient pas. Alors, c'est quoi? Ça, c'est de l'hypocrisie. Je pense qu'ici, déjà, vous pouvez trouver une base fantastique en ce qui concerne votre comportement. Est-ce le cas en ce qui vous concerne? Lorsque vous parlez avec vos amis, est-ce agi ainsi que vous agissez? Est-ce ainsi que vous dites une chose et que vous-même, vous faites quelque chose d'autre? Peut-être la meilleure façon de trouver, je vais continuer plus tard avec ce chapitre-là, mais de trouver des exemples dans la Bible, ce faisant, nous pouvons mieux comprendre ce que c'est que l'hypocrisie des gens. Par exemple, comme je viens de dire, souvent, même dans le Nouveau Testament, mais surtout dans l'Ancien Testament, le mot hypocrite est traduit en français parfois par impie. Ah oui. Notez-le, Job, chapitre 8. On ne se rend pas compte, voyez-vous, nous pensons qu'il faut que le mot hypocrite soit hypocrite, hein, alors que les mots changent, surtout dans notre langue, dans nos langues modernes. Mais impie, c'est quelqu'un qui est, pratiquement parlant, un hypocrite. Job a beaucoup souffert. Job ne savait pas pourquoi Dieu avait permis à Satan de le laisser tenter. Job a souffert énormément, mais lors de ses souffrances, il se manifeste aussi, il prononce aussi des mots, des paroles qui sont divinement inspirées. Par exemple, Job, chapitre 8, verset 13. Notez ce qui est marqué. Job, chapitre 8, verset 13. Alors dit-il, arrive-t-il tous à ceux qui oublient Dieu? Et l'espérance de l'impie périra. Intéressant. L'espérance de l'hypocrite périra. C'est ça le mot en hébreu. L'hypocrite, c'est quoi? Il espère quelque chose, mais non, ça ne va pas se passer. Parce que c'est quelqu'un qui dit une chose et qui fait quelque chose d'autre. Rappelez-vous cette phrase. L'espérance de l'impie périra. Vous espérez entrer dans le royaume de Dieu? Eh bien, cette espérance périra si vous continuez à être hypocrite. C'est clair, n'est-ce pas? Prenez encore Job, chapitre 13. Ce sont des exemples frappants et clairs à comprendre. Job, chapitre 13, il a une question d'hypocrite, traduit sous la forme de l'impie. Job, chapitre 3, verset 16. Cela même peut servir en mon salut, car un impie n'ose paraître en sa présence, c'est-à-dire en la présence de Dieu. Un impie ne peut pas, un hypocrite ne peut pas paraître devant la présence de Dieu. Ce sont des mots forts, ce sont des exemples frappants. Encore un exemple dans Job, puisque nous parlons de Job, Job chapitre 27, cette fois-ci. Ça vaut la peine d'étudier ça. Lorsque vous étudiez la Bible, cherchez à comprendre le sens des mots en faisant ce que je fais. Et c'est facile, on peut trouver dans des dictionnaires, dans des concordances, la signification des mots. Parce que les mots en français n'expriment pas nécessairement le sens du texte original. Comme je viens de dire, hypocrite, vous cherchez dans Job, vous ne le trouverez pas. Et pourtant, dans les exemples que je vous donne, l'original parle d'hypocrisie. Alors, Job chapitre, chapitre 27. Job chapitre 27. Encore une fois de l'espérance. Verset 8. Quelle espérance reste-t-il à l'impie? Autrement dit, quelle espérance reste-t-il à l'hypocrite? Voilà. C'est fort, c'est très fort comme déclaration. Si vous êtes hypocrite, dit la Bible, il n'y a pas d'espérance pour vous. Quelle espérance y a-t-il? Dans les diverses langues que nous avons, je répète, les mots traduits en français, en anglais, en allemand, parfois, il faut revenir en arrière et voir le sens original des mots qui ont été employés en grec ou en hébreu. Prenons encore notre présent, Proverbe chapitre 11. Proverbe 11. Je tâche d'expliquer parce que, voyez-vous, parfois, je répète, nous connaissons des mots, nous connaissons la signification, mais nous ne faisons pas attention. On parle des 10 commandements que nous devons observer, d'accord. Nous parlons de l'observance du sabbat, d'accord. Ou bien de l'amour envers le prochain, d'accord. Mais on ne parle pas directement de l'hypocrisie comme je le fais maintenant. Et pourtant, le Christ a fait cela, comme je viens de vous dire. Et je vais analyser dans Matthieu 23. Matthieu 23 est le chapitre destiné aux hypocrites. Et Matthieu 3 révèle clairement qu'aucun hypocrite ne sera dans le royaume de Dieu. C'est simple. C'est très simple. Et on ne peut pas ignorer cette vérité élémentaire. Proverbe chapitre 11, dis-je, verset 9. Proverbe 11, verset 9. Attendez, il faut que je trouve. Proverbe 11. Alors, par sa bouche, qui? L'hypocrite. Mais vous, le mot encore est rendu par impie. Par sa bouche, l'hypocrite perd son prochain. Mais les justes sont délivrés par la science, par la connaissance. Est-ce le grand qui vous concerne? Par vos paroles, est-ce que vous êtes vraiment, vous faites perdre l'amitié ou les sentiments de quelqu'un? Surtout l'éternel Dieu. Mes frères et mes sœurs, si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes en quelque sorte l'esclave ou les esclaves de Dieu. Et nous acquérons en nous le caractère divin, parce que le caractère divin nous est transmis par le Saint-Esprit. Dans Galates chapitre 5, vous avez les fruits de l'Esprit de Dieu, l'amour, la patience, la joie. De même, la nature humaine a ses propres fruits. Dans Galates exact, également, vous trouverez la signification du fruit de l'Esprit de Dieu, de humain. Notez-le. Galates chapitre 5. Maintenant, je parle non pas des caractères ou bien de ce qui est l'Esprit de Dieu, mais de ce qui est exactement l'Esprit humain. Et nous devons nous en méfier. Car souvent, nous nous comportons guidés non pas par l'Esprit de Dieu, non pas par les sentiments que l'amour de Dieu nous est transmis, mais par nos sentiments à nous, par nos sentiments humains, par nos, je dirais, par nos mauvaises pensées de raisonner. Galates chapitre 5. L'apôtre Paul décrit ceci d'une façon très claire, et vous verrez que presque chacune de ces déclarations ici se comporte et se mesure par l'hypocrisie. Or, dit-il, les œuvres de la chair, chapitre 5, verset 19, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Autrement dit, si vous lisez tout cela, vous verrez qu'à la base, c'est toujours l'hypocrisie. Vous savez une chose, vous faites quelque chose d'autre. Vous dites une chose, vous faites quelque chose d'autre. C'est le caractère humain. Ce sont les traits du caractère humain. C'est ce dont nous devons nous débarrasser. Commencez-vous à comprendre. L'hypocrisie se manifeste souvent sous le caractère humain, comme je viens de vous montrer. Et dans la Bible, vous le trouverez, je le dis, ce mot-là, sous certaines formes différentes. Psaume chapitre 26. Psaume chapitre 26. Là encore, c'est une autre façon d'expliquer. Je répète, souvent, nous regardons la Bible, nous lisons la Bible, mais nous ne reconnaissons pas ces versets comme s'ils s'adaptaient à nous. Autrement dit, nous pensons que ça s'adresse à quelqu'un d'autre. C'est encore, en quelque sorte, de l'hypocrisie. J'ai entendu souvent des gens qui, après avoir écouté un sermon, ils disent « Oh, vous savez, ce sermon était très bon. J'aurais voulu que quelqu'un d'autre l'entende. » Eh bien, d'accord. Mais si quelqu'un d'autre, ça peut être vous. Autrement dit, vous avez entendu le sermon et vous avez pensé à quelqu'un qui aurait pu en profiter. Mais vous-même d'abord, êtes-vous sûr d'en avoir profité? Autrement, vous êtes hypocrite. Eh oui. Psaume chapitre 26, dis-je, verset 4. En fait, le chapitre entier, c'est intéressant ici. Mais prenons verset 4, juste un seul verset ici. Psaume 26, verset 4. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. C'est quoi ça? C'est de l'hypocrisie. Les gens faux, ce sont les hypocrites. Les gens dissimulés, ce sont les hypocrites. Alors, ici, nous voyons que David dit que nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous associer avec des hypocrites. Je répète, en quelque sorte, nous le sommes tous. Nous devons faire des efforts pour ne pas l'être. Donnez l'exemple qu'il faut donner. Le Christ a toujours donné l'exemple qu'il a lui-même suivi. J'entends souvent des gens qui disent « Oh, vous savez, le Christ n'a pas observé les commandements. » Au contraire, le Christ a observé les commandements de son Père. Il a dit « Vous-même, faites de même. » Le Christ ne nous a jamais demandé quelque chose que lui-même n'a pas mis en pratique en ce qui concerne pour plaire à Dieu. Donc, le Christ n'était pas hypocrite. Le Christ nous a montré le chemin. Il a dit « Je suis le chemin, la vie. » Le bon berger. Suivez-le. Ce faisant, vous ne serez pas hypocrite. Matthieu 15. Prenons quelques exemples dans la Bible d'hypocrisie. Matthieu 15, vous avez ici un exemple frappant. Matthieu 15, verset 1. Commençons par verset 1. Alors les pharisiens, verset 1, et des scribes, vinrent de Jérusalem auprès de Jésus en disant « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ?» C'est une question qu'ils posent. Il n'est pas mauvais de poser des questions. Seulement, tout dépend de vos motifs. Pourquoi posez-vous une question? Pour apprendre quelque chose? Pour avoir une réponse qui est juste? Ou bien pour discuter? Ou bien pour juger? Ou bien pour critiquer? Les pharisiens et les scribes étaient des gens qui posaient des questions, non pas pour apprendre la plupart du temps, mais pour trouver quelque chose qui serait mauvais dans la réponse du Christ pour le piéger, pour le condamner. Alors, donc, voyez-vous, il parle de tradition. Mais c'est quoi la tradition des anciens? Une tradition n'est pas nécessairement correcte aux yeux de Dieu. Certes, certaines traditions peuvent être justes si elles ne contredisent pas les enseignements bibliques. Mais les traditions des anciens, si mon père ou mon grand-père, mettons, faisait quelque chose, est-ce pour moi un commandement de faire la même chose? Tout dépend. Si mon père, mettons, mentait par tradition, est-ce qu'il faut que je suive son exemple? Voyez-vous, si mon père, mettons, avait une religion, est-ce une raison pour moi de suivre sa religion sans vérifier le tout? Voilà ce qu'on appelle la tradition. Je vous ai dit et je répète souvent, nous avons hérité d'une religion comme nous héritons d'une nation. Non, nous ne devons pas hériter d'une religion. Certes, nous ne sommes pas responsables de notre naissance. Nous pouvons être nés en France, en Belgique, en Suisse, n'importe où. Donc, là, nous n'avons pas de choix. Mais après cela, nous avons le choix de diriger nos pas et de savoir ce que nous choisissons. Nous ne devons pas hériter par tradition une religion. Nous devons vérifier toutes choses. Alors, quelle était cette tradition des anciens dans Matthieu chapitre 15? C'était pas mauvais comme tradition, mais voyez-vous, c'est pas une tradition qui dicte une attitude chrétienne. Parce que le Christ, n'est-ce pas, a mangé avec eux et il ne s'est pas lavé, paraît-il. Il dit, la tradition d'anciens, car ils ne se lavent pas les mains, dit-il, quand ils prennent leur repas. Bien. Les disciples du Christ, donc, mangeaient sans se laver les mains. Eh bien, il n'y a rien de mal à ça. Il faut se laver les mains pour être par hygiène, d'accord. Mais ce n'est pas un péché. Voilà qu'il condamne le Christ parce que ses disciples ne se lavaient pas les mains lors d'un repas. Quelle a été la réponse du Christ? Verset 3, il leur répondit, « Et vous, dit-il, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Oui, fantastique. Bon, vous voulez vous laver les mains, allez-y. Mais ce qui est important vraiment d'abord, lavez-vous le cœur. Débarrassez-vous de vos sentiments méchants. Ensuite, car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère. » Voyez-vous, eux, ils laissent de côté le mettons le cinquième commandement, et ils mettent l'accent sur se laver les mains. « Honore, dit-il, ton père et ta mère. » Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Donc le Christ met l'accent ici sur la partie importante de la loi. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser l'autre partie de côté, pas du tout. Mais le Christ met l'accent sur ce qui est important, autrement vous devenez hypocrite. Il dit, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, dit-il, verset 5, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Autrement dit, ce n'est pas une question d'aider vos parents, financièrement parlant, ou par quelque autre moyen physique, en disant que, bon, vous honorez vos parents. Regardez aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, ce qui se passe autour de vous. Regardez la situation des familles. La plupart du temps, les membres d'une famille sont des étrangers, les uns avec les autres. Certes, ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, mais il n'y a pas de rapport intime. Autrement dit, il n'y a pas ce sentiment. Peut-être ils cèdent, entre guillemets, financièrement peut-être, mais il n'y a pas cet amour dont le Christ parle. Donc ce n'est pas une question vraiment d'aider quelqu'un pour l'honorer. C'est une question d'honorer quelqu'un en observant le commandement de Dieu, honorer selon le commandement de Dieu. Comme le Christ a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour votre ami. Ensuite, le Christ conclut au verset 6, Matthieu 15, « Vous annulez, ainsi dit-il, la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Lisez encore une fois cette phrase. Il dit « Vous annulez, dit-il, la parole de Dieu au profit de quoi ? De votre tradition. » Et il appelle ça quoi ? Hypocrite. Intéressant, voyez-vous. Esaïe a bien dit-il à prophétiser sur vous en disant, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà comment on peut décrire l'hypocrisie en ce qui concerne la loi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, nous, entre guillemets, de par le monde. Les gens disent une chose et font quelque chose d'autre. Ils observent des commandements qui ne sont pas tous les commandements de Dieu, ainsi de suite. Je pense que si ça donne un bon exemple, ces versets-là dans Matthieu 15, c'est que c'est que l'hypocrisie. Alors, revenons à Matthieu 23 dont je vous parlais, parce que ça vaut la peine d'analyser ceci. Dans Matthieu 23, le Christ, après avoir dit que faites ce que les hypocrites disent, mais ne faites pas ce qu'ils font, il donne des exemples. Et dans les exemples qu'il donne, voyez-vous, prenez par exemple, je peux prendre chaque verset, mais prenons à partir du verset 13. Ces pharisiens, ces scribes, ces maîtres de la loi, ils disaient une chose, je répète, et ils ne faisaient pas. Ou alors, ils faisaient des choses pour leur propre profit, pour gagner quelque chose. Verset 13, « Malheur à vous, dit-il, scribes et pharisiens hypocrites. » Donc, automatiquement, ils sont déjà nommés hypocrites. Pourquoi ? Parce que, dit-il, vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Comment ? En leur disant une chose et en montrant quelque chose d'autre. Il crée la confusion. Vous n'y entrerez pas vous-même, dit-il, et vous ne laisserez pas les autres qui veulent entrer. Par leur mensonge, donc, ils empêchaient les autres d'y entrer, de comprendre. De même aujourd'hui, énormément de gens prétendent être chrétiens, prétendant être chrétiens, prêchent ou proclament une vérité qui n'est pas nécessairement biblique. C'est de l'hypocrisie. En moyenne de faire ce que Dieu vous dit dans la Bible, vous agissez en tant qu'hypocrite. Hier encore, je parlais à une dame au téléphone. Et cette dame voulait savoir comment être chrétien. Et elle avait une bonne attitude. Alors j'ai expliqué par la Bible comment, par exemple, se faire baptiser. J'ai expliqué ce que c'est que le baptême. Que le baptême, c'est pour les personnes adultes parce qu'il faut qu'on se repente. Un enfant ne peut pas se repentir. Ensuite, j'ai expliqué, la Bible dit qu'après se repentir, il faut croire à l'Évangile, à la parole de Dieu, au plan de Dieu, que le Christ reviendra. Et ensuite, se faire immerger dans l'eau. Le baptême signifie immersion totale. Alors que la plupart des chrétiens baptisent un enfant de quelques mois ou bien quelques jours. Donc, voyez-vous, ça n'a pas de sens. Ensuite, déjà après ça, dit-il, vous devrez recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Eh bien, cette femme m'a dit, vous savez, je ne savais pas ça. D'accord. Mais maintenant, tout dépend de ce qu'elle doit faire. La plupart du temps, lorsque vous entendez la vérité au sujet de quelque chose, de par la Bible, vous ne voulez pas le faire. Parce que ça va changer votre façon de vivre. Ça va changer vos habitudes, vos traditions. Ça va offenser quelqu'un que vous connaissez. Ça peut même créer la division entre vous et votre conjoint. Voilà le problème. Donc les gens mettent d'abord leur propre confort avant les commandements de Dieu. Et ce faisant, ils deviennent hypocrites. C'est ce qui est marqué Matthieu 23, verset 13. Verset 14. « Malheur à vous, dit-il, scribes et pharisiens. » Hypocrite, ça commence. « Parce que, dit-il, vous dévorez les maisons des veuves. » Autrement, n'est-ce pas, ils gagnent, ils cherchent à gagner quelque chose en leur prétendant d'être, mettons, sensément, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. Ça, c'est intéressant. Pour l'apparence. De longues prières sont bonnes si c'est vraiment, ça vient du cœur. Mais si c'est pour l'apparence, pour, je dirais, vraiment faire croire aux autres que vous êtes plus convertis que les autres, ou bien plus convertis, ou bien pour vous montrer, entre guillemets, croyant, ces longues prières ne servent absolument à rien. À cause de cela, dit-il, vous serez jugés plus sévèrement. Laissez-moi montrer ici, juste avant de continuer, Matthieu 6. Je reviendrai. Je parle d'hypocrisie. C'est un sujet dont on ne parle pas souvent, mais un sujet important car, je le répète, aucun hypocrite n'entrera dans le royaume de Dieu, à moins qu'il se repente. Matthieu chapitre 6. Le Christ parle ici justement de prière. Et il nous dit comment prier. Matthieu chapitre 6, verset 1. « Gardez-vous, dit-il, de pratiquer votre justice devant les hommes. » Voyez-vous, là encore, autrement, c'est faire preuve d'hypocrisie. Vous êtes bon parce que vous voulez que les autres voient. Ce qui importe, c'est que Dieu vous voit, que Dieu constate que vous êtes bon et non pas nécessairement votre prochain. Pour en être vu, mes frères et mes sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Ne faites jamais une bonne action pour que les gens voient et disent, « Oh tiens, qu'est-ce qu'il est bien, qu'est-ce qu'il est bon. » Ne faites jamais rien pour être vu, dans ce sens, pour être honoré. Malheureusement, ce n'est pas ce que font les gens. Souvent, vous faites quelque chose pour plaire à quelqu'un d'autre, parce que vous voulez que on dise, tiens, qu'est-ce qu'il est bon. Ou bien, on demande des louanges, des compliments que vous cherchez. Dieu ne veut pas cela. Dieu ne veut pas que vous fassiez du bien parce que vous voulez être vu par les hommes. Je me rappelle l'histoire que je vous ai souvent racontée, je pense, d'une garde malade qui travaillait jour et nuit, beaucoup plus que les autres. Un jour, le médecin lui dit, écoute, toi qui travailles si dur, mais pourquoi tu travailles si dur alors que les autres font seulement leur travail régulier? Toi, tu mets des heures de supplémentaires. Mais pourquoi? Dieu sait que tu mérites davantage. Et la garde malade a répondu, écoutez, docteur, si Dieu le sait, c'est tout ce qui compte. Vous savez, cet exemple est frappant. Si Dieu sait que ce que vous faites est correct, c'est tout ce qu'il vous faut. Vous n'avez pas besoin des compliments de la part de qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'être reconnu par ou pour vos actes. Si Dieu est au courant, et Dieu est toujours au courant, c'est tout ce qu'il faut. C'est ce que le Christ dit ici en Matthieu 6. Il dit, ce n'est pas pour les autres que vous priez, ce n'est pas pour leur montrer. Ensuite, il parle de l'aumône, de la charité, verset 2, Matthieu 6. Lorsque tu fais de l'aumône, dit-il, ne sonne pas de la trompette. Là encore, tiens, vous donnez 100 euros, bien 100 dollars, je ne sais, à quelqu'un, vous dites, moi j'ai aidé quelqu'un. Ce faisant, votre geste perd sa valeur. Lorsque vous versez vos dîmes à Dieu, ce n'est pas une question de vous vanter, non, vous faites d'abord votre devoir, car le versement des dîmes est correct, mais ce faisant, c'est entre Dieu et vous. Je connais des gens qui versent leurs dîmes qui ne sont pas convertis. Par contre, je connais aussi des gens qui sont convertis, qui ne versent pas leurs dîmes comme ils devraient, en pensant que personne ne le saura. Vous vous trompez. Dieu le sait toujours. Dieu sait si vous versez votre dîme ou non. Mais par contre, la façon dont vous versez vos dîmes ou bien vos offrandes, là encore, montre si vous êtes hypocrite ou non. Il dit, ils font de l'aumône par l'hypocrisie. Ou bien de bonnes offrandes par l'hypocrisie. Vous perdez votre temps devant Dieu. Vous devenez coupable. Je vous dis, dit-il, ces gens-là reçoivent leur récompense. Verset 3, quand tu fais l'aumône, dit-il, que ta main gauche ne sache pas ce que fera ta main droite. Voilà. C'est la meilleure façon de ne pas être hypocrite dans ce cas-là. Si vous faites une bonne action, un bon acte, que personne ne sache, Dieu le sait, c'est tout ce qu'il faut. Vous verrez le contentement que vous aurez. Vous serez satisfait de ce que vous avez fait et vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous ne serez pas hypocrite. Et dit, regardez la récompense au verset 4. Et ton père, dit-il, qui voit dans le secret, te le rendra. Vous avez besoin de quelque chose. Si quelque chose vous viendra de Dieu, Dieu seul est capable de vous donner ce dont vous avez besoin. Alors, laissez-le faire. Vous faites les choses donc comme il vous le dit, et ce dont vous avez besoin, vous le recevrez. Verset 5, Matthieu 6. Maintenant, on parlait de prière, voyez-vous. J'en reviens à ça. Dit-il, lorsque vous priez-t-il, ne soyez pas comme qui? Comme les impies, comme les hypocrites. C'est ça. Pourquoi? Parce que les hypocrites aiment à prier debout dans les synagogues. Et au coin des rues, pour être vu des hommes. Autrement dit, pourquoi les gens voient que vous priez? De temps en temps, vous allez dans une église, vous voyez des gens agenouillés qui prient. Pas de problème, je ne parle pas de ça. Mais si vous faites cela pour impressionner les autres, alors là, vous perdez votre temps. Vous devenez hypocrite. Vous priez Dieu. La prière, c'est entre Dieu et vous. Personne d'autre n'a besoin d'être présent à votre attitude convertie. Donc, là encore le Christ dit, lorsque tu pries, dit-il, comment il faut prier? Va, dit-il, dans ta chambre, verset 6, autrement dit en privé. Ferme la porte. Non pas pour être vu, mais pour que Dieu entende et que votre attitude sera juste et que vous ne serez pas hypocrite. Et dit-il, et prie, dit-il, donc, dans cette chambre fermée, et Dieu te le rendra dans le secret parce que vous avez fait la même chose, donc, ouvertement devant lui, entre lui et vous seul. C'est cet exemple que souvent nous oublions. Dans notre comportement de gestes, nos gestes généreux, nous pensons que les autres nous loueraient parce que nous avons fait un bon acte. Souvent, je répète, lorsque vous faites quelque chose de bien, faites-le pour que Dieu seul le voit et non pas les autres. Je dirais même cachez les bons actes que vous faites que les autres ne voient pas. Là encore, je me rappelle l'exemple d'une femme, il y a longtemps. Une femme âgée, qui n'avait pas beaucoup les moyens d'aider les autres. Mais chaque fois que dans un sermon, il entendait que quelqu'un d'autre avait besoin de quelque chose, elle faisait des efforts pour aller chercher, dans la mesure du possible, ce dont elle pouvait lui donner, mettons une nourriture ou quelque je sais pas quoi. Elle allait déposer devant la porte de cette personne les choses qu'elle apportait, elle disparaissait, sans jamais se faire connaître. Étrange. Non, c'est pas étrange. Cette femme a été énormément bénie, et dans le royaume de Dieu, elle sera grande. Parce qu'elle ne faisait pas ça pour être vue des hommes. Elle faisait ça parce qu'elle voyait le besoin, là où le besoin est, et elle faisait sa part. Ce faisant, elle n'était pas hypocrite. Commencez-vous à comprendre. Matthieu 23. Nous revenons à ce Matthieu 23. C'est intéressant. Si vous lisez, vous pouvez voir les détails comme le Christ décrit ce que c'est que l'hypocrisie. Parce que ce chapitre, je répète, souvent dans mes sermons ou bien même dans les conférences publiques que j'ai faites, j'ai souvent cité Matthieu 23. Parce que les gens, parfois, nous critiquent. Nous critiquent en disant que vous, les membres de l'Église de Dieu, vous êtes trop, comment dirais-je, vains, parce que vous prétendez connaître la vérité plus que les autres. Non. Mettons des points sur les i. Nous ne prétendons rien en ce qui concerne la vérité. La seule différence entre nous et, entre guillemets, les autres, c'est que nous faisons ce que la Bible dit. Sans compromis, sans détour. C'est ça. S'il y a un mérite, le mérite est de Dieu. Vous direz, oui, mais tout le monde fait ça. Je ne questionne pas. Si tout le monde fait ça, prenez votre Bible et regardez voir si le comportement des gens, des autres personnes, est conforme au commandement de Dieu. À tous les commandements, pas un seul. Comme Jacques a dit, Jacques 2, verset 10, si vous observez tous les commandements, vous en transgressez un, vous êtes coupable de tous. Voilà la différence entre nous et les autres, entre guillemets. Nous, en tant que membres de l'Église de Dieu, nous observons tous les commandements bibliques, tous les enseignements bibliques. C'est ça la différence. Autrement, nous serions hypocrites. Donc, lorsque nous disons que voilà la vérité, ou bien que nous sommes l'Église de Dieu, c'est parce que nous pouvons dire que chaque acte que nous faisons doit être conforme aux enseignements bibliques. Autrement, nous ne ferons pas. Si la Bible dit, par exemple, qu'il faut que nous observions le sabbat, le septième jour de la semaine, nous le faisons. Si la Bible dit, par exemple, que nous devons observer les fêtes de l'Éternel, vous direz, dans l'Ancien Testament, non, il n'y a pas d'Ancien Testament. Il n'y a pas de Nouveau Testament. Il y a la Bible. Donc, si la Bible dit que nous devons observer les fêtes de l'Éternel, nous les observons. Et autrement, vous rejetez. Si vous dites que l'Ancien Testament n'est plus valable, dans ce cas-là, vous devez rejeter les deux tiers de la Bible. Y compris les prophètes, y compris Moïse, y compris Deutéronome, y compris les 10 commandements. Et c'est ce que font certaines personnes. Et pourtant, ce faisant, vous détruisez la Bible parce que le Nouveau Testament fait référence à l'Ancien Testament en plus de 250 reprises. Eh oui, en plus de 250 reprises, le Nouveau Testament se réfère à l'Ancien Testament. Donc, si vous rejetez l'Ancien Testament, dans ce cas-là, rejetez aussi le Nouveau Testament. Commencez-vous à comprendre? Donc, ça, je dis entre parenthèses, car là encore, vous direz, voyez-vous, l'hypocrisie, c'est de savoir une chose et de faire quelque chose d'autre. Si je disais, par exemple, que nous gardons les commandements, mais seulement une partie, je serais hypocrite. Bon, ça, c'est pas mon sujet. Continuons. Matthieu 23, verset, je saute quelques instants, verset parce qu'à cause du temps. Prenons Matthieu 23, 23. Ça, c'est un verset clé. Matthieu 23, 23. Et là encore, comprenez bien. Souvent, j'ai entendu dire des gens, écoutez, vous qui êtes dans l'Église de Dieu, vous êtes trop attachés au commandement de Dieu, à la lettre de la loi. Non, nous ne sommes pas particulièrement attachés à la lettre de la loi, mais nous ne rejetons pas la lettre de la loi. Et le Christ montre ici l'attitude. Il dit, verset 23, hypocrite, pharisien hypocrite. Pourquoi? Parce que vous payez la dîme, dit-il, de la menthe, etc., et que vous laissez de côté ce qui est plus important dans la loi. Voyez-vous, là encore, tâchez de comprendre. Ce n'est pas une question de ne pas faire ce qui est moins important dans la loi, mais de ne pas laisser de côté ce qui est important. La lettre de la loi est importante, mais l'esprit de la loi est plus important. C'est quoi l'esprit de la loi? Mais il ne faut pas, je dis, rejeter l'un à cause de l'autre. Et le Christ explique très clairement. Il dit, vous payez donc la dîme sur certains produits, les produits, mais vous oubliez, dit-il, ce qui est le plus important, c'est-à-dire la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est vrai. Donc, si nous gardons les commandements de Dieu, et si nous ne faisons pas preuve de miséricorde, nous ne sommes pas chrétiens. Nous sommes hypocrites. Ou bien, si nous observons les commandements de Dieu, et que nous n'avons pas la foi, nous ne sommes pas chrétiens, nous sommes des hypocrites. De même, si nous gardons les commandements de Dieu, et que nous ne faisons pas preuve de justice, eh bien, nous sommes hypocrites. Et aucun hypocrite n'entrera dans le royaume de Dieu. Comprenez-vous maintenant ce que j'entends? Et qu'est-ce que le Christ ajoute? Et ça, c'est la clé. Après avoir dit ceci, au verset 23, vers la fin du verset, il dit, car c'est là ce qu'il fallait pratiquer. Autrement dit, il fallait pratiquer la justice, la miséricorde, la fidélité, sans négliger les autres choses. Ah, voilà. C'est le Christ qui parle. Sans négliger les dîmes ou quoi que ce soit. Ça encore, voyez-vous, tâchez de comprendre. Vous ne pouvez pas séparer la lettre de la loi et l'esprit de la loi. C'est comme les deux côtés d'un médaillon. On ne peut pas séparer. Les deux ensemble font un. Si vous avez reçu l'esprit de Dieu, vous savez que vous devez observer la loi de Dieu et dans la lettre et dans l'esprit. Ce faisant, voyez-vous, vous ne serez pas hypocrite. Ou alors, vous serez hypocrite peut-être, ou bien ignorant tout simplement parce que vous ne comprenez pas, vous ne faites pas ce que le Christ dit. Commencez-vous à comprendre. Dans Luc chapitre 20, prenez le temps de lire Matthieu 23, ça vaut la peine parce que là, il y a beaucoup de choses qui pourraient vous aider à comprendre mieux ce que le Christ entend par l'hypocrisie. Luc chapitre 20. Encore un exemple extrêmement intéressant ici, que le Christ nous donne et qui peut nous aider à comprendre ce que c'est que l'hypocrisie ou bien comment nous comporter. Verset 40, attendez voir. Luc chapitre 20, verset 45. Tandis que tout le peuple écoutait le Christ dit à ses disciples, gardez-vous des scribes Pourquoi? Qui aime à se promener en robe longue, autrement dit pour se faire montrer, à être salué dans les places publiques, autrement dit pour être important, et qui recherche les premiers sièges dans les synagogues, d'accord, c'est encore de la vanité, les premières places dans les festins, qui dévore les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Si vous faites quelque chose pour l'apparence, vos actes, vos actions sont vaines. Vous perdez votre temps. Ils seront, dit-il, jugés plus sévèrement. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Voilà comment le monde se comporte. Nous vivons dans un monde hypocrite. La plupart des croyants, sans leur se rendre compte peut-être, pratiquent leur religion avec hypocrisie. Je répète, sans le savoir. Ils ont été séduits parce qu'ils n'ont pas fait de recherches. On peut être sincère, mais aussi on peut être sincèrement séduit. Hélas, c'est le cas pour beaucoup de chrétiens. Ils sont sincères, mais ils sont sincèrement séduits parce qu'ils ne prennent pas le temps pour vérifier ce que la Bible dit. Mes frères et mes sœurs, ce que je dis ici, vous n'avez qu'à prendre vous-même à la lettre et prendre votre Bible et lire votre Bible. Si ce que je dis n'est pas conforme à la Bible, je serai de ceux qui vous séduiront. Et je ne vais pas vous séduire. Je veux que vous vérifiez tout ce que vous venez d'entendre. Si c'est dans la Bible, faites-le. Si ce n'est pas dans la Bible, dans ce cas-là, je serai menteur et vous aurez été séduit. Mais je n'ai pas peur parce que je sais que je vous montre par la Bible. Je n'invente pas des versets. Les versets sont toujours là. Non, on n'ajoute pas dans la Bible des versets. Les versets sont toujours là. Allons encore un peu plus loin en ce qui concerne notre attitude envers les autres. Vous jugez les autres. Vous critiquez vos amis ou bien vos ennemis. C'est quoi ça? En principe, lorsque vous jugez les autres ou vous condamnez les autres, il y a un peu de l'hypocrisie là-dedans. Parce que ça fait croire que vous êtes meilleur que les autres. Vous jugez, vous critiquez, vous voyez des fautes ailleurs. Comme le Christ a dit, pourquoi d'abord tu ne cherches pas dans ton cœur toi-même et ôte ce qui est mauvais dans ton œil? Je paraphrase, vous savez ce que j'entends. Donc, d'abord cherchez vos fautes à vous, corrigez-les, et ne cherchez pas les fautes auprès des autres, car ça, ce n'est pas votre affaire. Votre part, c'est de montrer le bon exemple. C'est de montrer ce que c'est que être vraiment chrétien, vivre en tant que chrétien. Ce sera un témoignage fantastique de votre part, ce faisant vous aider votre prochain, ce faisant vous aimer votre prochain. Ce faisant, vous êtes disciple de Christ. Ce n'est pas en leur disant quelque chose que vous allez convaincre quelqu'un. C'est en leur montrant le bon exemple. Autrement, vous serez hypocrite. Souvent, je répète, mes frères et mes sœurs, nous faisons des choses par habitude. Et nous ne faisons pas attention à ce que nous faisons par rapport aux autres. Critique ou être critique est une mauvaise chose. Si vous êtes placé pour ça, c'est autre chose. Mais souvent, vous critiquez par motif de conscience, ou bien parce que vous pensez être meilleur, ou bien parce que vous êtes jaloux, ainsi de suite. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, comme vous pouvez voir, en ce qui concerne l'hypocrisie et comment vraiment vous en débarrasser, comment vraiment vous comporter comme vous devez vous comporter. Matthieu 7, c'est comme le Christ ici a dit, c'est le sermon sur la montagne. C'est une partie du sermon sur la montagne. Le Christ dit, Matthieu 7, verset 1, « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Autrement, vous serez hypocrites. On vous jugera, dit-il, du jugement dont vous jugerez. » Et le vous mesurera avec la mesure dont vous serez mesuré. Ensuite, il ajoute, pourquoi bois-tu? Voilà, c'est ce que je disais, verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Autrement, c'est de l'hypocrisie. Ou comment dit-il, peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Qu'est-ce qu'il dit ensuite ? Verset 5, hypocrite, voyez-vous, ça va bien, hypocrite. Ôte premièrement, dit-il, la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ce sont des choses, des vérités absolues, des vérités élémentaires. Dans la Bible, vous voyez beaucoup d'exemples, je répète, et vous direz, mais comment est-ce qu'on peut vraiment résoudre ce problème en nous? Eh bien, ce problème en nous se résume par un seul mot, vanité. L'hypocrisie et la vanité vont ensemble. Vous êtes hypocrite par vanité. Pour être vu, pour être considéré, pour être accepté. Ce sont des motifs qui vous rendent à être hypocrite. Donc, la seule réponse, je dirais, la seule façon de se débarrasser de l'hypocrisie, c'est de vous débarrasser de vos sentiments de vanité. C'est pas facile. Oh non. Parce que chacun de nous, quel que soit notre poste dans ce bon monde, nous sommes tous vains. Nous voudrions que les gens nous respectent pour des raisons qui sont futiles. Comme je viens de vous dire, que Dieu revoit, que Dieu regarde, c'est tout ce qui compte. Ne cherchez pas, je dirais, les compliments des hommes, mais cherchez la louange de Dieu. Dans Luc chapitre 14, il y a un autre exemple qui montre notre part d'hypocrisie en ce bon monde. Nous sommes tous coupables. Je dirais la seule façon vraiment de vous débarrasser de cette hypocrisie, c'est de vous humilier devant Dieu. Vous vous rappelez Proverbe 15. L'humilité précède la gloire. Le Christ est venu pour nous montrer ce que c'est que l'humilité. Il a donné sa vie pour vos péchés, pour les miens. Il s'est débarrassé, je dirais, de sa divinité pour que nous puissions, nous, hériter la vie éternelle. Voilà l'humilité dont le Christ a fait preuve. C'est la seule, la meilleure façon de vous expliquer ce que c'est que l'humilité. Luc 14, disais-je. Luc 14, verset 7. Voilà. Un exemple frappant, comme le Christ nous dit, ce que c'est que l'humilité, et ce que c'est que vraiment faire ce qui est juste, et ce que c'est que ne pas chercher votre propre gain. Luc 14, verset 7. Il adressa ensuite une parabole aux qui ont convié. En voyant qu'ils choisissaient les premières places, il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, c'est un exemple, c'est une parabole, ne te mets pas, dit-il, à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Vous savez, c'est embarrassant, hein. Et que tu aurais, dit-il, alors, la honte d'aller occuper la dernière place. Réfléchissez à cela. C'est une parabole, mais elle est pleine de leçons pour nous. Et le Christ nous dit ce qu'il faut faire. Mais lorsque tu seras invité, voilà la réponse. Va te mettre à la dernière place. Afin que quand celui qui t'a invité viendra, vous êtes, voyez-vous, vous êtes assis à la dernière place, et te dise, mon ami, monte plus haut. Alors dit-il, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table. Bon, voyez-vous, c'est que vous ne cherchiez pas à être honoré par eux. Mais même cela, automatiquement, vous donne l'occasion d'être honoré par eux, parce que vous étiez à la dernière place et vous avancez. Ensuite, il dit, car quiconque s'élève sera abaissé. Quiconque s'abaisse sera élevé. Voilà la clé base de l'humilité. Le Christ, à travers la Bible, nous a montré ce que c'est que l'humilité. Le Christ nous a donné des exemples fantastiques, afin que nous puissions, nous, faire notre part. Parfois, nous nous comportons en tant que des gens qui n'ont pas assez de courage. Prenez l'exemple de Pilate. Vous savez, ça, c'est un exemple dont on peut vraiment apprendre beaucoup. Et vraiment, regardez voir l'attitude d'un Pilate, parce que c'est parfois notre attitude à nous. Pilate savait que le Christ était innocent. Matthieu chapitre 27. Pilate avait écouté les deux côtés de la question. Il avait vu, il avait entendu le Christ lui parler, et il a vraiment compris. Ensuite, il a entendu aussi les accusateurs du Christ l'attaquer sans cause. Alors, Pilate devait prendre une décision. Une décision qui lui coûterait son poste. S'il avait fait ce qu'il devait faire, est-ce qu'il aurait dû savoir qu'il aurait dû faire? Parce que même sa femme lui a dit, écoute, laisse le Christ libre parce qu'il est innocent. Parce que Pilate n'avait pas vraiment de raison. Mais qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi son poste, son influence, sa grandeur humaine, parce qu'il ne voulait pas perdre tout cela à cause d'un jugement qu'il rendrait, et pourtant, ce jugement serait juste. Matthieu 27. Je vous donne là l'histoire, vous n'avez qu'à lire le reste, lisez le chapitre entier. Donc, il est là devant le Christ, et les gens le condamnent, le Christ, et il doit prendre, lui, une décision. Matthieu 27, verset, je pense, le 24. Oui. Donc, vous savez, on n'avez qu'à prendre verset 15, 16, 17, mais ensuite, nous voyons. Attendez voir, je pense que j'ai pris le mauvais. Oui. Matthieu 27. Je ne suis pas sur Matthieu 27. Voilà. Matthieu 27, verset 24. J'ai dit, ça vaut la peine de voir le tout. Ça vaut la peine de voir, de comprendre comment nous-mêmes, parfois, nous nous comportons. Parce que cet exemple, c'est pas seulement pour ceux comme Pilate. Cet exemple est pour nous autres. Parce que nous savons ce que nous devons faire et nous ne le faisons pas parce que nous ne voulons pas perdre ce que nous avons. Mes frères et mes sœurs, si vous avez peur de perdre ce que vous avez, et pour cela vous devenez hypocrite, dans ce cas-là, vous perdez tout. Et ce que vous avez, et ce que vous aurez dans le royaume. Donc, Matthieu 27, c'est difficile parce que je prends au milieu d'un verset, voyez-vous. Donc, les gens attaquent le Christ, tout ça. Ensuite, le Pilate demande au verset 21, lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Parce qu'il y avait un criminel. Les gens disent, relâche Barabbas, le criminel. Et Pilate dit, que ferais-je donc de Jésus, verset 22? Tous répondent, crucifie-le. Verset 23. Mais qu'a-t-il fait? Voyez-vous, voilà l'hypocrisie. Mais qu'a-t-il fait, ce Christ? Les gens n'écoutent pas, crucifie, qu'il soit crucifié. Verset 24, Matthieu 27. Pilate, voyant le tumulte, qu'est-ce qu'il dit? Il prend de l'eau, il se lave les mains. Il dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Non. C'était la lâcheté. Un homme qui a de la responsabilité, qui aurait pu arrêter ce massacre, non, il se lave les mains. Souvent, c'est ainsi que nous nous comportons. Nous nous lavons les mains. Si vous savez ce qu'il faut faire, mes frères et mes sœurs, n'ayez peur de rien. Dieu sera avec vous, en fin de compte, vous serez récompensé. Par contre, si vous allez parce que vous voulez vous défendre, dans ce cas-là, vous perdrez tout ce que vous avez. Je voulais vous parler d'un Timothée chapitre 4. Lisez-le, ça vaut la peine. Le Christ en parlant par la bouche du prophète de Paul, il dit dans les derniers temps, laissez-moi citer, je pense que ça vaut la peine. 1 Timothée chapitre 4. Souvent, je répète, notre problème, c'est de ne pas connaître quelque chose, ne pas savoir quelque chose. Notre problème, c'est de savoir, de connaître et ne pas le faire. Ah oui, c'est 2 Timothée chapitre 3. Le Christ parle de nos jours. Le Christ parle de la situation du monde juste avant son retour. Verset 1, 2 Timothée 3. Sache, dit-il avant tout, que dans les derniers jours, et nous sommes dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, vaniteux, amis de l'argent. Tout ça, ça a à faire avec l'hypocrisie. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, dévorants, calomniateurs, traîtres, je saute, emporté par l'orgueil, ayant l'apparence de la piété et reniant ce qui en fait la force. Voilà, l'hypocrisie. Et Paul dit, éloigne-toi de ces gens-là. Prenez le temps de lire la Bible. Prenez le temps de voir comment le Christ s'est comporté lorsque ses adversaires l'ont attaqué. Prenez le temps de voir comment être vraiment chrétien. Prenez le temps de vérifier dans la Bible ce que vous croyez. Si ce que vous croyez est conforme à la Bible, gardez-le. Par contre, si ce que vous croyez n'est pas conforme à la Bible, quel que soit le prix à payer, ayez le courage de vous mettre à genoux, de demander à Dieu de vous donner la force et de lui dire, écoute Dieu, je veux faire ta volonté. Ça va me coûter beaucoup, je sais. Mais je sais que ta volonté est que je ne sois pas hypocrite. Parce que si dans vos cœurs, dans votre cœur, vous savez que ce que vous faites, ce que vous croyez n'est pas juste, dans ce cas-là, vous souffrez énormément et vous souffrez, vous vous rendez malheureux pour rien. Enfin, pour rien, c'est une façon de parler. Vous vous rendez malheureux, point, c'est tout. En fin de compte, je voudrais terminer par un exemple ici. Dans toujours ça, Matthieu 7, que j'ai commencé, parce que Matthieu 7 nous montre, une fois encore, ce que c'est que l'hypocrisie et où cela vous mène-t-il. Matthieu 7, c'est un sujet intéressant, je vous dis, parce que vous cherchez dans la Bible le mot hypocrisie, vous trouverez souvent dans le Nouveau Testament, mais c'est à travers la Bible. C'est l'attitude humaine. Ce sont des traits de caractère de l'esprit de l'homme. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, dit le Christ, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Comprenez-vous ça? C'est pas une question de dire, c'est une question de faire. Ensuite, vous pouvez avoir toutes sortes d'excuses. Vous n'avez qu'à lire verset 22, 23. Vous direz, écoutez, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'étais vraiment chrétien. Le Christ vous dira, verset 23, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi qui commettez l'iniquité, autrement dit, qui péchez devant Dieu. Mes frères et mes sœurs, ne prenez pas ce sermon à la légère. Si vous avez pris une note, relisez vos notes. Si vous avez compris quelque chose, cherchez dans la Bible quelle est votre attitude pour plaire Dieu. Si vous êtes hypocrite, autrement dit, si vous croyez une chose, vous faites quelque chose d'autre, vous êtes hypocrite. Dans ce cas-là, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Car la Bible précise à plusieurs endroits qu'aucun hypocrite ne sera dans le royaume de Dieu. Ne soyez pas hypocrite. Soyez un serviteur fidèle aux yeux de Dieu. Croyez Dieu, faites ce qu'il vous dit, et alors vous serez récompensés.